le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 15 novembre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, cette nouvelle vague de Covid qui touche actuellement l'Autriche. Le gouvernement prend ce matin une mesure radicale. Les non-vaccinés confinés. Nous serons à Vienne dès le début du journal après les autres titres.
Une heure de débat consacré à l'immigration hier soir. Proposition très ferme des 5 candidats LR à la présidentielle. Vous les entendrez. L'Europe décide aujourd'hui de nouvelles sanctions contre la Biélorussie. Les gens ne doivent pas être utilisés comme armes, a dit hier le chef de la diplomatie européenne. Et puis en pleine tournée d'automne, le rugby cherche à séduire les banlieues à 2 ans de la Coupe du Monde en France.
Invité d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Oui, c'est l'histoire d'une gamine victime de harcèlement scolaire, puis de harcèlement sur les réseaux sociaux et qui, à force de volonté, est devenue à 20 ans une des nouvelles étoiles du rap français. Elle raconte son histoire dans un livre, Frôler les murs. Je vous présente Tessae à 7h50.
Merci Léa et à tout à l'heure. 8h20, le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, candidat à l'élection présidentielle. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter. Jamais aucun pays d'Europe n'avait osé le faire. Laisser les personnes non vaccinées hors de l'espace public. L'Autriche les assigne à résidence à partir d'aujourd'hui. 2 millions de personnes de plus de 12 ans confinées chez elles. Elles auront le droit de travailler, se dégourdir, faire leurs courses ou voir leur médecin. 500 euros d'amende pour les contrevenants et les contrôles inopinés seront renforcés. Avec une incidence de plus de 800 cas pour 100 000 habitants et un taux de vaccination largement inférieur à la moyenne européenne, c'est donc la solution trouvée par le gouvernement autrichien pour enrayer l'épidémie et qui divise la population. Reportage à Vienne, Isorias.
Une injustice, voilà comment ce confinement est perçu par les personnes non vaccinées, à l'instar de ses deux amies viennoises qui préfèrent rester anonymes.
C'est injuste car les personnes vaccinées peuvent continuer à transmettre le virus. Pourtant, elles peuvent aller au marché de Noël, partir en vacances, tout faire. On veut faire des non vaccinés les coupables de la propagation du virus.
Ce n'est pas juste. Juste, car on a une raison de ne pas vouloir se faire vacciner. Personnellement, j'y vois un risque d'attraper d'autres maladies.
Un discours qui agace Aloïs, vaccinée, âgée d'une 50aine d'années.
Il est normal que ceux qui se sont fait vacciner et contribuent ainsi à ce que la société revienne à une vie à peu près normale puissent retrouver des libertés. Ceux qui ne sont pas prêts à apporter leur contribution à la société doivent rester chez eux.
D'autres, comme Özge, pensent que ce confinement des non-vaccinés ne sera pas suffisant.
Je travaille dans un centre de tests et le nombre de cas augmente sans cesse. Et c'est pas toujours lié au fait qu'on soit vacciné ou non. Beaucoup de gens vaccinés attrapent le Covid. C'est pour ça que je pense que ce confinement pour les non-vaccinés sera très vite suivi d'un confinement pour tous.
Hypothèse pour le moment écartée par le gouvernement. Vienne, Isorias, France Inter.
Et le gouvernement autrichien évaluera l'effet de ces restrictions dans 10 jours. Vienne, de son côté, lance un programme de vaccination des 5-11 ans. En Israël, le feu vert a d'ailleurs été donné pour cette vaccination des moins de 11 ans, pour espérer une baisse du nombre de fermetures de classes et une possible réduction de la transmission du virus. Dans les écoles françaises, le port du masque est de nouveau obligatoire à partir du CP ce lundi. Tous les départements sont concernés également par le non-brassage des élèves. Plus de 7000 personnes sont hospitalisé pour une infection au coronavirus, un chiffre en hausse continue.
Il est 7h04, second débat hier soir, Anaïs, entre les 5 prétendants, les Républicains à la présidentielle.
Un débat ou plutôt une surenchère de la proposition la plus ferme pour lutter contre l'immigration. Pendant une heure, les candidats ont entonné une tonalité très droitière extrême. Écoutez dans l'ordre Valérie Pécresse, Éric Ciotti, Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin, extrait choisi par Anne Souhaitement.
Je pense qu'il faut aller plus loin, qu'il faut cesser le droit du sol automatique.
On ne peut plus devenir français par le hasard du droit du sol. Il faut devenir français par la filiation ou alors par un long parcours de naturalisation.
Ça veut dire quoi, long ?
Au moins 10 ans.
Je propose de baisser de 30% l'immigration du travail. Et je souhaite diviser par 3 l'immigration familiale.
Il faut donner un coup d'arrêt immédiat à un certain nombre de flux et même à tous les flux.
Moi, je veux mettre absolument fin à l'immigration qui est l'immigration sociale.
Et oui, il y a un lien entre immigration, islamisme et terrorisme.
Je propose d'arrêter tout simplement le regroupement familial.
Avec moi, il n'y aura plus de régularisation de personnes qui sont rentrées clandestinement.
L'aide médicale d'État qui sera supprimée, sauf cas d'urgence.
Nous devons, pendant 5 ans, ne donner aucune allocation contributive, RSA, minimum vieillesse, APL, à tout étranger qui arrive sur le territoire national.
Et ce débat LR, on y reviendra dans l'édito politique de Thomas Legrand. Les adhérents choisiront le 4 décembre. Lui était candidat en 2017. François Fillon, de retour à la barre à 13h30. Procès en appel dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif de son épouse. En première instance, François Fillon avait été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. La présentation cet après-midi d'un plan national de lutte contre la prostitution des mineurs. Le phénomène s'aggrave. En 5 ans, le nombre de victimes recensées a augmenté de 70%. 10 000 mineurs sont victimes de proxénétisme selon les associations. Le secrétaire d'État chargé de l'enfance sonne donc la mobilisation générale, David Di Giacomo.
Le plus souvent, les mineurs exploités sexuellement sont âgés entre 15 et 17 ans. Mais l'entrée dans la prostitution se fait de plus en plus tôt. Ça devient d'une banalité déconcertante, déplore un éducateur en Seine-Saint-Denis. Il prend l'exemple d'une adolescente de 12 ans. Elle dit vouloir se prostituer tout simplement parce que ça gagne bien. Des jeunes filles qui, pour la plupart, ont déjà été victimes de violences au sein même de leur famille. Dans son plan présenté cet après-midi, le secrétaire d'État chargé de l'enfance prévoit que les adolescentes en situation de fragilité soient beaucoup mieux repérées et accompagnées pour éviter qu'elles ne tombent dans la prostitution dont il est très difficile de sortir. Adrien Taquet souhaite aussi renforcer la prévention sur les dangers des réseaux sociaux. Instagram, TikTok ou encore Snapchat sont désormais le principal mode de recrutement des proxénètes à la recherche de mineurs vulnérables.
Les syndicats jouent leur dernière carte aujourd'hui devant le Conseil d'État. Ils examinent leur recours sur le fond contre la réforme du calcul de l'allocation chômage. Mais la plus haute juridiction administrative avait déjà rejeté fin octobre leur recours en urgence.
Il est 7h07, tapé plus fort encore sur la Biélorussie.
Les 27 ministres des Affaires étrangères européens se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles pour élargir les sanctions déjà prises à la suite de la violente répression des opposants dans le pays. Cette fois, c'est pour tenter d'endiguer la crise migratoire. Des milliers exilés massés à la frontière polonaise. À Bruxelles, Jérémy Audouard.
L'Union européenne devrait décider de s'attaquer directement au portefeuille des responsables de ce trafic international de migrants. Seront visés les dirigeants des compagnies aériennes et des agences de tourisme qui font venir ces candidats à la migration jusqu'à la frontière polonaise. Leurs avoirs devraient être gelés et ils n'auraient plus le droit de mettre le pied en Europe. Des cadres du régime de Loukachenko seraient eux aussi dans le collimateur. Ces mesures sont sans espoir et contre-productives. C'est l'avertissement du ministre biélorusse des Affaires étrangères. Il s'est entretenu par téléphone avec Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. C'est la 5e fois que les 27 décident de telles sanctions. Ils craignent de tomber dans les mêmes travers qu'avec la Turquie en 2015, c'est-à-dire un chantage migratoire en échange d'importantes sommes d'argent. Bruxelles, Jérémy Audouard, France Inter.
Même Boris Johnson, malgré tambours et trompettes, reconnaît une certaine déception après l'accord qui a conclu la COP26 de Glasgow. Les nouveaux engagements entraîneraient, s'ils sont respectés, une hausse de 14% des émissions d'ici à 2030 par rapport à 2010, alors qu'il faudrait les réduire de 45% pour maintenir un réchauffement sous les 1,5 degrés. Si certains voient l'avenir s'assombrir, ce n'est pas le cas du business. Les dividendes mondiaux rebondissent plus vite que prévu après la pandémie. Record en vue pour 2021, 1460 milliards de dollars versés cette année aux actionnaires, un record annuel absolu tiré par les versements faramineux, dit l'étude des sociétés minières. Autre record, le Bitcoin, il vient de dépasser le seuil historique des 68 600 dollars. Laurent Kramer, l'engouement est visible dans les rares magasins spécialisés dans la vente de crypto-monnaies en France.
Depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires du comptoir des cybermonnaies à Bordeaux a été multiplié par 4. Enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers, le comptoir permet d'acheter ou de vendre en toute transparence des crypto-monnaies. Car au-delà des curieux cherchant un terrain de jeu pour spéculer, un nouveau public est arrivé cette année, explique François Miquel, co-créateur du comptoir.
On va avoir des clients qui vont investir dans les crypto-monnaies et en particulier dans Bitcoin comme ils investiraient dans l'or. Une logique de constitution de patrimoine, de thésaurisation et aussi de transmission.
Plus étonnant encore, certaines petites entreprises font-elles aussi preuve d'intérêt pour les crypto-monnaies et en particulier le Bitcoin?
On a aussi un tissu de PME où il y a une trésorerie qui dort, qui n'est pas nécessairement réinvestie tous les ans. Et donc, ils allouent une partie de la trésorerie de leur entreprise sur les crypto-actifs pour s'assurer contre un risque d'inflation et contre un risque de perte de valeur de leur trésorerie.
Des entreprises et des particuliers qui font le pari que l'achat du Bitcoin sera gagnant sur le long terme, même en cas de revers de la crypto-monnaie dans les mois qui viennent.
Et placement de long terme s'il en est et si l'on en a les moyens. Les œuvres d'art, saison des enchères à New York particulièrement prolifique avec des ventes exceptionnelles comme celle de ce soir chez Sotheby's. La collection McLove, des pièces dispersées après le divorce du couple qui a fait fortune dans l'immobilier. On parle de centaines de millions de dollars, un marché qui se porte très bien, explique Dominique Sago-Duvauroux, économiste.
Mon sentiment, c'est qu'il y a à la fois aujourd'hui une dimension jeu spéculatif sur le marché de l'art qui fait venir de nouveaux investisseurs plus jeunes. Et puis de l'autre côté, il y a toujours ces très grandes fortunes qui investissent sur ce marché et qui ont plutôt plus d'argent aujourd'hui qu'avant la crise. Moi, je ne serais pas étonné qu'assez rapidement, une œuvre atteigne le milliard d'euros. Quand on a une fortune de 100 milliards d'euros et qu'on se dispute une œuvre de premier plan avec quelqu'un d'autre, bah finalement, ce milliard d'euros, encore une fois, il n'est pas grand-chose par rapport à la fortune des gens. Donc, par contre, ce marché de l'art qui se porte très bien ruisselle très peu sur les artistes, en fait. C'est un des gros problèmes aujourd'hui de l'économie de l'art. C'est que le marché parvient très mal à nourrir les personnes qui sont à l'origine des œuvres, qui sont les artistes.
Dominique Sago-Duvauroux, spécialiste du marché de l'art avec Amélie Perrier. En sport, le Portugal, champion d'Europe 2016 de football, trébuche sur la route du Qatar. Il devra passer par les barrages pour obtenir son billet pour la Coupe du Monde. Défaite contre la Serbie, l'entraîneur a présenté ses excuses. Les rugbymen français, eux, vainqueurs hier de la Géorgie, reçoivent à déjeuner à Marcoussis Emmanuel Macron. Visite présidentielle aux équipes de France, masculine et féminine. À 2 ans de la Coupe du Monde dans l'Hexagone, le rugby tricolore veut conquérir les banlieues. La Ligue Île-de-France vient de lancer un projet pour investir les quartiers populaires. Fanny Lechevestrier s'est rendue au pied des tours de Grigny 2 dans l'Essonne.
Un quartier populaire où faire du rugby n'a rien de naturel, nous explique d'entrée Dora et Cédrine, 15 ans.
Moi, je vais pas vous mentir, d'abord, j'étais plutôt vers le foot. Parce que moi, j'avais une idée du rugby hors, les brutes, ça fait mal. Moi aussi, au départ, ça me faisait peur.
Alors, Sofiane Fares, enfant de Grigny lui-même, est l'un des 24 animateurs sportifs territoriaux embauché par la Ligue, va jusqu'au pied des cités pour présenter son sport.
Je viens avec 2-3 ballons, puis un petit goûter à la fin. Et avant de parler de sport, pour montrer que c'est une fratrie.
Car ici, le projet est autant sportif qu'éducatif.
Au départ, c'était pas gagné. On avait des comportements où je sors du terrain, les insultes s'affligeaient de droite à gauche. Il y a encore du travail, mais la plus grosse partie est faite. On a juste à faire un regard ou un « et ». Ils comprennent tout de suite.
Et aujourd'hui, Momo et Kelly en demandent.
Ouais, grâce au rugby, on est beaucoup plus soudés qu'avant.
Que quand on joue ensemble, on crée des amitiés. Les garçons, les filles, on apprend à être sociable.
Jusqu'à même devenir un élément de fierté, ajoute Dora.
On a entendu des belles phrases. Faites du rugby, les filles. Oh, mais ça, c'est pour les garçons. Faut plaquer. Oh, vous allez taper vos maris. Ta. Nous, on est là, on fait du rugby et en plus, on est fiers.
Avec Agueni, une quarantaine de jeunes désormais licenciés au club de rugby.
Voilà, et ce reportage de Fanny Lechevestrier, c'est à retrouver aussi sur franceinter.fr.
Merci Anaïs Feuga. Le Zoom dans 3 minutes, reportage aujourd'hui à la frontière biélorusse.